Amis, frères et sœurs, recevez de la part de Dieu la grâce, la paix et la joie, ici et maintenant, dans votre cœur et dans votre vie. Alors nous vous souhaitons la bienvenue à l'occasion de ce culte. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le direct du site internet. Bienvenue à celles et ceux qui nous regardent de l'étranger. Et aussi à celles et ceux qui franchissent peut-être le seuil du temple de l'oratoire pour la première fois. Et merci en particulier à Sarah Kim qui nous accompagne pendant ce culte. Lorsqu'un homme marche dans l'obscurité et qu'il a une lampe à la main, s'il voit une pierre, il ne la heurte pas. S'il voit un trou, il n'y tombe pas. Cette parole de sagesse commente le verset des psaumes qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Je vous invite à la prière. Éternel, tu le sais mieux que nous, mais notre route parfois est obscure. Elle est parsemée de pièges et d'obstacles. Souvent, notre marche est incertaine. Elle est menacée d'erreurs d'aiguillage, de questionnements divers et de tentations non maîtrisées. Nous te confions ce culte qui nous rassemble, auprès comme au loin. Puissions-nous, là où nous en sommes, trouver quelques réponses à nos questions? Puisses-tu être une lumière dans nos obscurités? Puissions-nous ensemble trouver de la joie dans nos rencontres? Amen. Nous nous réunissons tout d'abord avec le premier chant liturgique que vous trouverez au début du psautier français, dans le petit livret qui est inséré dedans. Il s'intitule « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». Je vous invite à vous lever. Éternel, nous te louons. Comme un témoin, ta gloire se transmet du jour au jour et de la nuit à la nuit. Comme une lumière, ta gloire pénètre par la fenêtre de notre histoire et vient réjouir notre regard. Comme la rencontre d'un ami, ta gloire dilate notre cœur et nous délivre de nos peurs. Comme un cantique, ta gloire résonne dans notre mémoire et nous raconte ta victoire. Comme une présence mystérieuse, ta gloire inspire notre chemin et donne à nos rencontres leur parfum. Comme une brise du soir, ta gloire murmure à nos oreilles et chante tes merveilles. Comme un psaume de louange, ta gloire détrône les puissants et nourrit notre espérance. Éternel, nous te louons. Et je vous invite à poursuivre notre louange en prenant maintenant le chant du psaume 138. Que tout mon cœur soit dans mon chant. Et de ce psaume, nous prendrons les 3 strophes. Prenez place. Écoutons ce que Dieu nous donne la force de faire. Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel. Tu dirais alors, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre pour que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer. Tu dirais alors, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher pour que nous le mettions en pratique? C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer le Seigneur ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Assurés de l'amour de Dieu, reconnaissons notre péché. Et si nous faisions silence, non pour observer une minute de silence qui ne veut peut-être pas dire grand-chose, si ce n'est une acceptation de la fatalité, mais plutôt pour mieux écouter nos propres discours, le temps de les recevoir pour nous-mêmes. Et si nous faisions silence, non pour jeter un voile sur les mensonges ou supporter les injustices sans rien dire, mais pour savoir quel discours tenir qui ne soit pas le maquillage des injustices et des mensonges. Si nous faisions silence, non pour cesser de communiquer avec les autres et nous enfermer dans nos propres vérités, mais pour prendre le temps de regarder avec des yeux neufs les images que nous avons des autres et de nous-mêmes. Si nous faisions silence, non pour nous interdire la liberté d'expression, soit parce que nous nous culpabilisons ou soit parce que nous avons quelques complexes, mais pour prendre le temps de nous faire à l'idée que la liberté d'expression est un droit et non un privilège. Si nous faisions silence, non pour nous laisser aller au désespoir comme si tout a été dit ou tout a été fait, mais pour prendre le temps de réaliser que l'espoir est un vain mot s'il ne plonge ses racines dans ce qui aujourd'hui se dit et se fait. Peut-être serions-nous surpris de voir combien, dans nos si nombreux discours, nous avons parlé si peu de l'essentiel, et combien dans nos projets d'avenir, nous nous sommes surtout attachés à défendre nos acquis. Éternel, viens à notre aide dans notre silence. Pour recevoir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Par trois fois, Jésus a demandé à Pierre « M'aimes-tu ?» C'est la seule question que Dieu pose à chacun et à chacune. Et il sait de quoi nous sommes faits. Alors il dit « M'aimes-tu ?» Et lorsque, comme Pierre, nous confirmons, ou peut-être nous balbutions simplement notre amour, alors la grâce de Dieu est avec nous. Inébranlablement, c'est un rocher. Pour construire quelque chose de bien, nous avons besoin de ce pardon inlassablement donné. Car Dieu nous a aimés le premier, pas une seule fois dans un lointain passé, mais à chaque instant de notre vie. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Je crois en Dieu. Je crois qu'il nous a aimés le premier. Avant que nous existions, avant nos pères, avant les débuts obscurs dont sortit l'humanité, il nous a aimés. Mieux qu'une mère en espérance d'enfant qui pense à l'inconnu qui sommeille en elle, je crois que Dieu nous a aimés d'avance et portés. Car nous sommes son espérance. Et nous sommes sa crainte, sa joie et sa douleur. Je crois que, malgré l'immense peine qu'il subit par nous, Dieu nous a voulu et nous veut encore, toujours. À travers les obstacles, les chemins perdus, les gouffres, les ombres de mort, je crois que Dieu nous veut, nous mène et communie avec nous. Je crois que Dieu, en Jésus-Christ, nous aime victorieusement, avec une puissance devant laquelle tout cédera. Il boira avec tous les calices. Il combattra tous les combats. Il descendra dans toutes les tombes jusqu'à la fin. Et la fin sera bonne. Oui. Je crois que Dieu est amour et que son esprit nous anime et nous porte. Amen. Thank you. gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, d'éternité en éternité. Aujourd'hui, nous prendrons un extrait du livre de la Genèse, au chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 17. L'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte, enfanta Caïn et dit: « J'ai procréé un homme avec le Seigneur. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel faisait paître les moutons, Caïn cultivait le sol. À la fin de la saison, Caïn apporta au Seigneur une offrande de fruits de la terre. Abel apporta lui aussi des prémices de ses bêtes et leur graisse. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Caïn en fut très irrité et son visage fut abattu. Le Seigneur dit à Caïn : « Pourquoi t'irrites-tu ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas ? Si tu n'agis pas bien, le péché tapis à ta porte est avide de toi, mais toi, domine-le. » Caïn parla à son frère Abel, et lorsqu'ils furent au champ, Caïn attaqua son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn : « Où est ton frère Abel ? » ?»« Je ne sais, répondit-il, suis-je le gardien de mon frère ? » ?»« Qu'as-tu fait ? » reprit-il. « La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. » Tu es maintenant maudit du sol qui a ouvert la bouche pour recueillir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit au Seigneur : « Ma faute est trop lourde à porter. Si tu me chasses aujourd'hui de l'étendue de ce sol, je serai caché à ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui dit : « Eh bien, si l'on tue Caïn, il sera vengé 7 fois. » Le Seigneur mit un signe sur Caïn, pour que personne, en le rencontrant, ne le frappe. Caïn s'éloigna de la présence du Seigneur et habita dans le pays de Nod, à l'Orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle devint enceinte et enfanta Hénoc. Dans le recueil « Louanges et prières », je vous invite à prendre maintenant le cantique numéro 183. De ce cantique, nous chanterons les 3 strophes. Je vous invite à vous lever. Oh, Prenez place. Prions ensemble. Éternel, tu dépasses toujours ce que nous savons, ce que nous devinons de toi. Avant que nous te cherchions, tu es auprès de nous. Avant que nous sachions te nommer, tu es déjà notre Dieu. Nous ne pouvons te cerner de nos mots et nos yeux sont incapables de voir ton visage. Pourtant, il arrive que des hommes et des femmes se comprennent si tu répands sur eux ton esprit. Alors fais descendre sur chacun et chacune de nous, ici et maintenant, ton esprit. Remplis-nous de sa force. Remplis-nous de sa présence. Et mets dans notre bouche un langage nouveau, que le monde s'y reconnaisse. Donne-le-nous pour qu'à notre tour, nous en soyons les témoins et les messagers, ici comme au loin. Fais que nous recevions de cette parole ce que la vie a de plus beau et de plus généreux, le mouvement, l'élan qui nous porte vers toi, ô Dieu. Amen. Amis, frères et sœurs, si nous prenions le temps de faire un radio-trottoir sur l'histoire de Caïn et Abel que nous venons d'entendre, eh bien nous serions surpris des réponses que nous pourrions avoir. La plupart du temps, tout le monde se souvient que c'est une histoire de meurtre, mais personne ne se souvient comment elle se termine. D'ailleurs, il y a quelques années maintenant, un enfant d'environ 7-8 ans m'a dit, au moment où je l'accompagnais pour la préparation de son baptême, « Oui, oui, j'ai lu un peu la Bible depuis le début, mais je me suis vite arrêtée. »« Ah bon ? Et pourquoi ? Mais parce que c'est trop triste l'histoire de celui qui tue son frère. » Alors je lui ai raconté le reste de l'histoire. Et comment Caïn, malgré son meurtre, avait gardé toute l'estime et tout l'amour de Dieu, contre toute attente. Mais l'émotion suscitée par ce petit garçon qui ne supportait pas cette histoire de meurtre continue d'habiter mes pensées. Et il se trouve que c'est le texte que nous avons partagé cette semaine lors de notre dernière pause spirituelle. Nous qui sommes abreuvés de nouvelles par les journaux télévisés ou radiodiffusés, à toute heure du jour et de la nuit, nous sommes témoins de scènes de meurtre par écran interposé. Que ce soit les attentats ou les homicides, et maintenant, selon l'expression consacrée, hélas, les féminicides, le meurtre d'un être humain perpétré sur un autre, quel qu'il soit et quelle qu'en soit la raison, est pour ainsi dire quelque chose devant laquelle nous sommes impuissants. Impuissant d'abord parce que les nouvelles nous arrivent une fois que l'acte s'est produit. Bon, d'accord, très peu de temps après, mais tout de même, après. Et dans notre fort intérieur, nous nous disons sûrement qu'il n'y a rien de changé depuis le début du monde et que la violence sous toutes ses formes fait décidément partie de notre humanité. Par tous les moyens, nous essayons de décrypter la barbarie qui nous entoure, et ce, depuis les origines. C'est d'ailleurs bien de cela dont il s'agit dès les premières pages de la Bible, qui raconte de manière concrète les débuts balbutiants de l'humanité avec une description des rapports humains dans sa complexité. Les trois premiers chapitres de la Genèse racontent la création du monde, puis celle d'Adam et Ève, leur faute et leur exclusion du jardin d'Éden. Et ce quatrième chapitre débute par l'histoire de deux frères et d'un meurtre. Alors, cette histoire a de quoi nous déranger à plusieurs endroits, car elle met en lumière le côté sombre de l'humanité, et ce, rapidement, dans l'histoire de la création. Et voilà que je vous invite à lire ou à relire ce récit si particulier du livre de la Genèse, qui nous raconte comment Caïn, né d'une femme, devient le symbole du fratricide en tuant son frère. On croyait connaître ce texte, et voilà qu'on le découvre, et ce n'est qu'un début. On voudrait se saisir du texte, mais voilà que c'est le texte qui nous saisit. Et c'est sans doute pour cela que l'on dit que le texte biblique est une parole vivante, parce que cette parole nous fait réfléchir, elle nous rejoint dans nos préoccupations, mais également dans notre quête du sens de la vie, et aussi parce qu'elle nous fait poser des questions auxquelles nous n'aurons pas forcément de réponse immédiate. Mais le fait que nous ne recevions pas de réponse immédiate signifie que dans le texte que nous lisons, dans la parole que nous entendons, rien n'est acquis d'avance. Tout se cherche. Tout évolue en fonction de notre âge, en fonction de l'expérience de notre vie. Alors si ce texte nous parle de relations fraternelles qui ne vont pas de soi et qui par la suite d'ailleurs n'iront jamais de soi, comme nous montre le reste de la Bible, peut-être faut-il regarder du côté des parents. Et le premier verset de ce chapitre est tout à fait surprenant. En mettant son premier fils au monde, Ève déclare « J'ai acquis un homme avec l'Éternel ». Ainsi est nommé son fils aîné Caïn, qui veut dire « acquisition, possession ». Et dès sa naissance, son nom, Caïn, le détermine. Il est, en quelque sorte, peut-être la possession de sa mère, et aussi, d'une certaine manière, de Dieu. Il ne semble pas y avoir beaucoup de place pour le père biologique. Ainsi que l'écrit le rabbin Delphine Horwiller dans son dernier livre « Vivre avec nos morts ». Je cite, « Caïn développe un instinct de propriétaire et devient agriculteur. Il est un homme qui plante, enracine et fait fructifier la terre. » La Genèse décrit les fils de Caïn comme une lignée de bâtisseurs, de citadins aux talents multiples qui maîtrisent l'artisanat et la métallurgie. Le monde de Caïn est fait pour durer, contrairement à celui de son frère. En effet, Ève met au monde un autre fils auquel elle ne semble accorder que peu d'importance. Il s'appelle Abel, ce qui en hébreu signifie « buée ». Ce nom, synonyme d'éphémère, d'évanescent, est une manière de dire qu'il ne fait que passer. Il devient berger d'un troupeau, il est nomade. Abel ne s'installe nulle part, il ne possède rien, il n'a ni destination ni destin. Il sort de l'histoire très vite par un meurtre dont on connaît le mobile, puisqu'il est provoqué par l'attention divine accordée à Abel et refusée à Caïn. Et le texte biblique nous fait part ici d'une attitude dérangeante de Dieu. Il est présenté ici comme ayant une préférence. Mais une préférence pour qui ? une préférence pour celui qui, justement, n'a pas d'attention particulière. Une préférence pour celui qui passe, pour celui qui est évanescent. Et pourtant, c'est cette préférence qui fait naître en Caïn de la jalousie, qui se dit « Kina », en hébreu, une forme dérivée du nom de Caïn, Caïn. Et Delphine Horviller ajoute « Seul celui qui vit pour acquérir peut jalouser l'autre au point de l'anéantir. » Et ce n'est pas faute d'avoir été prévenu. Parce que si nous croyons à juste titre que Dieu, ayant préféré l'offrande d'Abel, ne considère qu'une façon, eh bien le texte biblique nous dit au contraire toute l'attention que Dieu porte à Caïn. Et lorsque Caïn est envahi par le sentiment de jalousie, il le met en garde. « Attention, Caïn, tu découvres en toi quelque chose qui pourrait bien te détruire. Tu es irrité, pourquoi ? Tu es abattu, mais pourquoi ?» Ces questions font prendre conscience à Caïn d'une part, mais aussi au lecteur que nous sommes, que ce sentiment de jalousie est en fait la porte ouverte au péché, dans ce sens étymologique du mot, à savoir rater la cible, manquer le but, ou encore se séparer des autres et par conséquent se séparer de Dieu. Dieu dit à Caïn, à la façon d'un arrêt sur image, « Sois conscient du sentiment négatif qui te traverse à l'instant et domine-le, sinon c'est la porte ouverte à la catastrophe. Et si tu agis bien, tu relèveras ton visage abattu. Autrement dit, si tu domines ton sentiment de jalousie, un avenir est possible entre ton frère et toi. Mais si tu agis mal, autrement dit, si tu ne domines pas ce sentiment qui te ronge déjà, alors le péché sera le plus fort et tu commettras l'irréparable. » Et Dieu dit encore à Caïn, « C'est à toi de dominer sur lui. C'est toi qui as la maîtrise de ton sentiment négatif. » Mais nous connaissons la suite. Caïn entraîne Abel dans un champ, le tue. Et Caïn est en train de tout rater dans sa vie. En tuant Abel, il se coupe d'une relation fraternelle possible. Avec la disparition d'Abel, il n'y a plus de fratrie et aveuglé par son sentiment de jalousie, il se coupe de Dieu parce que quand Dieu lui fait prendre conscience de son état d'esprit, Caïn aurait pu entamer un dialogue avec Dieu pour savoir comment lutter contre cela, mais il n'en est rien. Et Abel meurt sans laisser de traces, mais sa présence va persister autrement. La mort d'Abel laisse une empreinte dans le sol, celle de son sang. Et ce sang est un cri. Et il est tellement fort, ce cri du sang versé, qu'en hébreu, il est écrit au pluriel. Et Dieu entend les sangs d'Abel. Et la sagesse rabbinique donne une interprétation transgénérationnelle. L'assassin n'a pas simplement tué un homme, mais toutes les générations qui auraient pu naître à partir d'Abel. Avec Abel s'éteint un pluriel, c'est-à-dire tout ce qui aurait pu être. Et lorsque Caïn parle enfin à Dieu en disant « Ma faute est trop lourde à porter », il découvre qu'il doit faire face à l'absence de cette existence passée, à tout ce qui aurait pu être et qui, parce qu'il n'a pas été, a laissé en lui une trace bien plus profonde qu'il ne l'avait supposée. Et si jamais nous en doutons, alors, après le culte, déplaçons-nous à la sortie jusqu'au jardin des Tuileries et allons admirer la statue érigée à la droite du petit bassin, lorsqu'on arrive au jardin, sculptée par Henri Vidal et qui s'appelle « Caïn venant de tuer son frère Abel ». On y voit Caïn cachant son visage dans son énorme main de cultivateur et tout son corps exprime la prise de conscience de l'irréparable, de l'irréversible. Abel est mort, mais Caïn est blessé à jamais par son acte. Et en regardant cette statue, on perçoit sa marche lancinante et lourde, remplie d'un poids énorme, ce poids de la culpabilité qui vient le ronger à la place de la jalousie. Qu'ai-je fait ? Et qu'est-ce que je vais devenir ? Quelle trace suis-je en train de laisser à moi qui, finalement, ne suis aussi que de passage ? Et ces questions ne quitteront plus qu'un. Elles drainent avec elles leur lot d'inquiétudes profondes liées à la condition humaine, que l'abbé Pierre d'ailleurs appelle dans l'un de ses livres consacrés à ses petites méditations sur la foi et le sens de la vie, la blessure héréditaire de l'humanité, pour parler du péché originel. Alors dans ce texte extrêmement chargé, il y a contre toute attente une espérance surprenante. Dans le dialogue que Caïn finit par avoir avec Dieu, dans lequel il passe successivement de la défensive « Suis-je le gardien de mon frère ?» à la peur exprimée sans retenue « Je suis errant et vagabond sur la terre, quiconque me trouvera me tuera !» tout en avouant sa prise de conscience « Ma faute est trop lourde à porter », voilà que Dieu répond d'une façon inattendue. Si l'on tue Caïn, il sera vengé 7 fois, ce qui rappelle au fond l'évocation de la loi antique sur la vengeance. Et Dieu pose un signe sur Caïn afin que personne, en le rencontrant, ne le frappe. Dieu ici protège Caïn d'une escalade possible de la violence qui n'en finirait jamais. En quelque sorte, il met fin à une éventuelle surenchère de vengeance pour éviter peut-être que le monde ne disparaisse pour de bon dans une folie destructrice. Poser ce signe sur la personne de Caïn, c'est comprendre que malgré son acte meurtrier, il n'est pas réduit à ce qu'il a fait. Il garde toujours sa dimension humaine. Il paie de lui-même les conséquences de son acte. Il n'échappe pas, pour ainsi dire, à la justice humaine telle qu'elle est décrite dans le texte, à savoir le sol qui ne donnera plus de fruits et devenir un errant et un vagabond obligé sans cesse de vivre ailleurs. Mais il n'en demeure pas moins un être humain digne de l'amour inconditionnel de Dieu. Et c'est bien là, ici, une espérance surprenante avec laquelle je vous propose de repartir. Le péché est une chose décrite ici comme un animal prêt à bondir dans notre vie, prêt à nous séduire, à nous attraper, prêt à nous faire tomber, même si nous sommes prévenus. Mais si nous y succombons, nous ne sommes pas enfermés dans notre péché. Plus tard, Saint Jean l'évangéliste dira « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur ». Nous restons, chacun pour notre part, dignes de son amour inconditionnel. Et au fond, Caïn en est le plus bel exemple, puisqu'il peut être père, il aura une descendance, signe de bénédiction, plus tard, malgré le meurtre d'Abel. Frères et sœurs, au cœur de ce récit de Caïn et Abel, il y a tous les ingrédients pour constituer une relation compliquée, comme l'envie, la jalousie, et même ici, quelque part, le sentiment d'infériorité, comme l'explique en particulier Gérard Haddad dans son livre « Le complexe de Caïn », ce qu'il nomme le narcissisme blessé. Et ce texte vient nous rendre attentifs sur notre propre comportement. Peut-être y a-t-il un Caïn qui sommeille en nous. Finalement, il suffit de très peu de choses pour qu'il se réveille. Pour ma part, je l'ai constaté à maintes reprises, en particulier dans mes visites dans le monde carcéral. La frontière entre le dedans et le dehors peut être parfois plus mince qu'on ne le pense. Ce texte, qui est aussi une parole que d'autres avant nous ont reconnue comme étant divine, est là pour nous mettre en garde contre nous-mêmes. La rivalité entre des frères et des sœurs dans une même famille, c'est quelque chose que nous pouvons connaître et supporter d'ailleurs plus ou moins bien. Sans pour autant aller jusqu'au meurtre, il y a tout de même d'autres moyens autrement plus subtils et plus pervers qui détériorent une relation. Et cela vaut pour toutes les formes de fratrie que nous vivons, que ce soit au cœur de la famille, au cœur de notre société civile et laïque, et plus encore peut-être au cœur de ce que nous appelons l'Église, au sens universel du terme, qui peut d'ailleurs s'élargir aux dimensions interreligieuses ou multiconfessionnelles. Il y aura toujours des injustices à subir et des souffrances à supporter. Mais comment allons-nous échapper à la spirale tentatrice de la vengeance, c'est-à-dire de faire justice par soi-même ? Alors, ce texte nous renvoie à l'acceptation de la différence. Il dénonce un chemin de mort, celui qui consiste à laisser dominer en soi l'envie ou la jalousie ou l'esprit de concurrence ou encore la volonté de pouvoir, profondément ancré en chacun, mais néanmoins maîtrisable. Ce que nous sommes invités à comprendre, c'est que la relation à l'autre, c'est d'abord au premier autre, à la fois semblable et différent, qu'est le frère ou la sœur, qui permet à l'être humain de dépasser le rêve chimérique de la toute-puissance et devenir ce qu'il est, en acceptant que l'autre soit vraiment autre et en cherchant à valoriser la complémentarité. Alors il y a urgence, mes amis, me semble-t-il, parce qu'à force de se prendre pour des Caïns, on finit par oublier que nous sommes des Abel. Comme l'avait compris d'ailleurs le sage roi Salomon. Il l'a d'ailleurs écrit dans son livre de l'Ecclésiaste, qui commence ainsi avec ce verset biblique qui est certainement plus connu. « Vanité des vanités, tout est vanité. » Mais le mot employé par Salomon en hébreu, c'est « Abel ». Et dans le texte hébreu, cela se traduit alors par « buée des buées, tout est buée ». Autrement dit, Abel des Abel, tout est Abel. Et Salomon reconnaît ainsi que tout est Abel. Tout ce qui est solide finit par disparaître, alors que tout ce qui est fragile et éphémère laisse des traces indélébiles et insoupçonnées. Amen. Alors, dans le recueil Louanges et prières, maintenant, je vous invite à prendre le numéro 309. De ce cantique, nous chanterons les les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever. Prenez place.
Bonjour à tous et bon dimanche. Merci à notre pasteur Agnès Adeline Schaeffer qui a présidé le culte et merci à Sarah pour l'accompagnement à l'orgue. Quelques informations pour l'agenda de la semaine qui arrive. Le mardi 6 juillet à 15h ici au temple, un culte d'action de grâce sera célébré pour Monsieur Cyril Chantrier qui nous a quittés le 19 juin. Et donc ce culte d'action de grâce sera célébré par notre pasteur Agnès Adeline Schaeffer. Le rendez-vous suivant de la semaine, ce sera jeudi. Donc comme d'habitude, de 12h30 à 13h30 ici au Temple, la pause spirituelle. Donc animé et également par notre pasteur Agnès et c'est normalement je me tourne vers les bancs des conseillers, c'est a priori les seules annonces qu'il y aurait. Donc je profite du fait que nous soyons le premier dimanche du mois, donc aujourd'hui c'est l'offrande sera au profit des actions de l'entraide. Et je renouvelle l'appel pour notre amie Denise Brigou et son association Ensemble un cœur qui collecte des produits d'hygiène et de soins corporels. Donc n'hésitez pas, lorsque vous venez au culte ou à la pause spirituelle, vous pouvez les déposer dans la première chapelle à votre gauche en entrant et puis ils seront récupérés. Voilà, donc merci à tous. Et encore bonne semaine et bon dimanche.
Alors, c'est donc maintenant le moment de l'offrande. Que chacun donne ce qu'il a décidé en son cœur, sans regret ni contrainte. Et j'en profite pour saluer ma consœur Béatrice, qui est en ce moment en vacances. Donc, j'assure la permanence tout le mois de juillet. Elle reviendra en août. Avant que nous nous initions dans la prière d'intercession les uns pour les autres, je vous rappelle simplement que, donc, alors je ne sais pas si je dois dire au fond du temple, ou enfin là-bas, à l'entrée du temple plutôt, eh bien la librairie est ouverte et que vous pourrez bénéficier donc des nouveaux titres qui sont préparés à votre attention. Prions ensemble. Éternel, toi qui es l'amour, la liberté et la joie et la vérité, tu nous rassembles encore aujourd'hui pour refaire avec nous ton alliance et pour redire les mots de ta tendresse. Alors regarde nos vies. Tu connais les richesses qui s'y trouvent déjà, mais tu sais aussi nos faiblesses. Et nous venons à toi tels que nous sommes, sans artifice. Nous te présentons celles et ceux qui sont près de nous comme loin de nous, ces hommes, ces femmes, mais aussi ces enfants qui ont besoin d'attention, de soutien, de regard et de gestes de tendresse. Apprends-nous à communiquer de plein pied avec eux et surtout, garde-nous de la pitié qui pourrait les dévaloriser. Contre le scandale de leurs différences et notre révolte, accorde-nous la grâce, si nous ne pouvons les comprendre, d'accepter ta présence en eux, malgré les épreuves qui nous dépassent. Alors, continue à nous donner pour que nous puissions partager, à nous pardonner pour que nous sachions être indulgents, à nous interpeller pour que nous ne nous enfermions pas en nous-mêmes. Continue à nous demander pour ne pas capitaliser, mais aussi à nous bousculer pour ne pas nous relâcher. Et prends patience avec nous pour que nous ne nous lassions pas de te servir. Fais que nous voyons les choses à faire sans oublier les personnes à aimer, et que nous voyons les personnes à aimer sans oublier les choses à faire. Rends-nous attentifs aux vrais besoins des autres. Nous sommes là pour nous tendre la main, pour nous comprendre, nous aider, nous aimer les uns les autres. Sois donc au plus près de chacun pour répondre à ton évangile. Notre monde est fragile. De nombreux drames affectent les habitants de notre maison commune. Les guerres qui blessent des peuples entiers, les assassinats, les homicides, les attentats, les féminicides, bien sûr, mais aussi la dégradation évidente de la planète, signalée chaque jour par une nouvelle catastrophe. Alors donne-nous encore et toujours la force et le courage de prendre soin de nos sœurs et de nos frères en humanité comme dans la foi, tout en prenant soin de la terre et en réalisant que ces deux soins n'en font en réalité qu'un. Et nous rassemblons notre prière imparfaite dans celle que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Mon frère, ma sœur, mon ami, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel porte sur toi son regard et te donne sa paix. Amen. Je vous souhaite un beau dimanche et merci de laisser les recueils de chants à votre place.